Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. 170 ans après l'abolition de l'esclavage en France, cette pratique n'a pas disparu. Pour preuve, ces images tournées par CNN en novembre dernier près de Tripoli en Libye, montrant une vente aux enchères de 12 migrants africains réduits en esclavage, traités comme une marchandise. Des images qui ont provoqué une onde de choc dans le monde entier et pourtant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail, il y avait en 2016 dans le monde plus de 40 millions de personnes victimes d'une forme d'esclavage moderne, travail forcé, exploitation sexuelle, mariage forcé, et une victime sur quatre était un enfant. L'Afrique est particulièrement touchée par l'esclavage moderne, alimenté par la crise migratoire commencée en 2015, sans compter le trafic d'enfants endémique dans des pays comme le Bénin ou le Nigeria. Mais l'Europe n'est pas épargnée. Des jeunes filles en provenance du continent africain ou des pays de l'Est se voient contraintes de se prostituer à Londres ou sont placées comme domestiques corvéables à merci à Paris. Alors quels sont les traumatismes liés à l'esclavage moderne, physique ou psychologique? Quelle prise en charge pour les victimes? On va en parler avec, en duplex de Lyon, dans les locaux de Radio France, Naram Riech-Wahabi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et directrice de l'ONG OISEM, l'Organisation internationale contre l'esclavage moderne. Et à mes côtés, en studio, le docteur Daniel Breyer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre bénévole pour Médecins du Monde et responsable de la mission mineurs non accompagnés à Paris de MDM. Et vous consultez au CASO, le centre d'accueil de soins et d'orientation de Médecins du Monde à Saint-Denis, près de Paris. Tout à l'heure, nous appellerons à Conakry le docteur Cheikhou Belde, médecin de formation, psychothérapeute, vice-président de l'Association guinéenne des psychologues cliniciens. Et puis en fin d'émission, nous évoquerons la mise au point par une équipe suisse d'un implant révolutionnaire, une petite capsule à glisser sous la peau qui pourrait permettre de prévenir les cancers. Elle génère un tatouage médical, un grain de beauté artificiel qui pourrait détecter dans l'organisme un risque de cancer.
Priorité santé sur RFI.
Je vous propose d'abord d'écouter le témoignage de Gladys. On a changé le prénom. Cette femme d'une quarantaine d'années d'origine béninoise a été victime d'esclavage domestique dès son arrivée en France à l'âge de 25 ans. D'abord dans le Cher, puis en banlieue parisienne. 15 ans après les faits, Gladys raconte son histoire au micro de Raphaël Constant.
Je suis arrivée en France par le biais d'une dame qui m'a recrutée au Bénin pour travailler dans sa boutique de vêtements comme retoucheuse, parce que j'ai fait de la couture. Sauf que quand je suis arrivée, il n'y avait pas de boutique de vêtements. Quand je suis arrivée, très rapidement, elle m'a récupéré mon passeport, mon billet de retour aussi. Donc j'ai commencé le travail tout de suite. Donc m'occuper des enfants, les lever le matin, les préparer, les déposer à l'école, aller les chercher pour déjeuner à la maison, les retourner à l'école, aller les récupérer entre-temps, gérer le ménage de la maison, le linge, tout ça, aller faire les courses et faire le repas du soir. Voilà. Entre-temps, elle a déménagé aussi de la ville d'où elle était quand je suis arrivée et elle a été s'acheter... C'était un truc pas fini, qui était en ruine. Elle m'a laissée dans cette chose et elle est partie à l'hôtel. Et moi, je vivais sur place où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Et donc, j'allais avec des seaux tous les matins, aller chercher de l'eau. Je peux faire plusieurs voyages par jour. Donc, ça a duré un moment et j'ai réussi à parler au voisinage, à une dame qui était très gentille. Elle m'a posé des questions, donc je lui ai répondu franchement. Je n'ai pas menti, j'ai dit ce qui se passait, tout simplement. quand ma patronne est arrivée, elle lui a dit qu'elle était au courant et qu'elle allait avertir les représentants, quoi. Elle a paniqué, donc elle m'a ramenée chez une autre copine à elle, qui était coiffeuse à Évry-Courcouronnes.
Et m'a laissée en banlieue chez... parisienne.
En banlieue parisienne. Donc elle m'a laissée chez la coiffeuse, m'en ayant 1500 euros.
Donc elle vous a vendu 1500 euros.
À la coiffeuse. Donc je lui ai demandé mon passeport. Elle m'a dit non. Tu vas rester travailler pour moi pendant 5 ans parce que j'ai payé quand même pour ta voix, donc je ne peux pas te rendre tes papiers. J'avais plus de contact avec les parents en Afrique, donc tout ce que j'avais à faire, c'est de faire ce qu'elle me dit de faire.
Comment vous étiez traitée chez cette patronne ?
C'était très tôt le matin et très tard le soir. Quand je dis très tard, ça peut aller jusqu'à 1h du matin, 1h30. Et le matin, c'était 6h du matin. Je dormais au salon, dans le canapé. Elle m'avait laissé le canapé dans le salon. C'était beaucoup mieux que chez la première personne, parce que chez la première dame, je dormais dans la salle de bain. C'était dans la baignoire. Et le manger, c'était quand elle décidait de te donner à manger. À défaut qu'on te tape, on te lance quand même beaucoup d'injures, on essaye de te casser le plus pour que tu te sentes tout en dessous, pour que tu oublies qui t'étais, même avant de venir. Et je dois vous le dire honnêtement, pendant tout le temps que je travaillais pour elle, j'imaginais tous les jours comment faire pour sortir de là. Malgré que je ne connaissais pas le pays, je connaissais personne ici. Et on me disait tout le temps, évite la police, si tu jamais tu parles à la police, ils vont te faire enfermer. Tu vas aller en prison, tu ne reverras pas de sitôt ton enfant. J'avais laissé ma fille au pays. Donc, je me rangeais, quand je sortais dehors, j'évitais vraiment de croiser le regard des gens, je ne parlais à personne.
Et quelles ont été les conséquences physiques et psychologiques de cet esclavagisme domestique sur votre santé ?
Moi, personnellement, je n'ai pas été battue. J'ai perdu beaucoup de kilos que j'ai repris progressivement aussi. J'avais la migraine tout le temps. Et ça a été très longtemps comme ça. Même après que je sois sortie de là, j'ai traîné ça pendant très longtemps. Et ça a été très longtemps des cauchemars. Et surtout qu'on perd l'estime de soi-même. On oublie qu'on est quelqu'un. Refait tout ça, se rappeler de qui on était, de qu'est-ce qu'on faisait, de comment on comptait pour les gens avec qui on était, et reconstruire tout ça.
Quand vous vous en êtes sortie, par quels soins thérapeutiques vous êtes passée ?
Moi, j'ai consulté les médecins, c'était vraiment pour les petits soucis de tous les jours. Savoir qu'en France, on peut se soigner déjà. Quel genre de personne peut vous prendre en charge pour votre santé. Et après, c'est plutôt psychologique, je vais dire. Mais je n'ai pas vu de psy. C'est un truc que j'ai fait toute seule. J'étais bien décidée à reprendre ma vie en main. Donc, je n'avais pas à laisser ces personnes-là continuer en quelque sorte à me posséder, même si j'étais plus avec eux, me laisser dedans, ou accepter les cauchemars, ou accepter, ou continuer à me dire que je ne suis rien, comme elles l'ont toujours répété. Pour moi, c'était non. Et j'avais besoin de personne pour ça. Tout ce que je voulais, c'était me sortir de là. Je voulais une vie normale. Je voulais aller travailler, gagner de l'argent, payer mes factures, avoir une vie normale comme tout le monde. Je ne veux pas de la pitié. Je veux que vous me traitez d'égal à égal et réapprendre surtout à me dire « je suis moi ». Aujourd'hui, je vais bien, vraiment. Et surtout, ce qui m'a aidée, c'est que je n'ai pas gardé de haine.
Je n'ai pas gardé de haine, les mots très forts de Gladys, recueillis par Raphaël Constant. Il faut savoir qu'après 13 mois de séquestration, donc dans deux maisons différentes, Gladys a eu le courage de s'enfuir avec l'aide d'une ancienne coiffeuse du salon de sa première patronne. Et elle a été prise en charge par l'association SOS Esclaves. Elle a obtenu ses papiers, un diplôme d'état d'aide-soignante et elle travaille depuis 12 ans maintenant auprès de personnes âgées. Quant à ses bourreaux, ils ont été condamnés à 8 et 11 mois de prison avec sursis et 18 000 euros de dommages et intérêts qui n'ont jamais été versés car ils ont été déclarés insolvables. Docteur Breillet, comment vous réagissez à ce témoignage de Gladys ?
Eh bien, ça m'évoque pas mal de choses par rapport aux personnes que je rencontre, donc un médecin du monde. Et plusieurs points sont à noter. Le premier, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a mal à la tête et effectivement, c'est une des plaintes essentielles. Quand les migrants, quand ils viennent consulter un médecin du monde, leur première plainte, c'est « j'ai mal à la tête ». Par contre, ils n'ont pas conscience qu'il s'agit derrière cela de problèmes d'ordre psychologique. C'est après un rendez-vous avec un médecin, après un entretien, qu'ils voient un psychologue. Et là, on peut commencer à parler un peu de ce qui se passe pour eux.
Naram Riach Wahabi, est-ce que Gladys est représentative des cas dont s'occupe votre ONG, OISM ?
Oui, absolument. C'est vrai que le témoignage de Gladys rend bien compte des témoignages que nous pouvons recevoir. L'association existe depuis 20 ans. Et effectivement, le mode opératoire est très clair dans ce que décrit Gladys, avec bercer la personne d'illusions, lui confisquer ses documents d'identité, et puis cette dégradation, cette déshumanisation, ce processus pour que la personne soit vraiment réduite à l'état de déchet, perde son identité, et cette fragilisation en évoquant l'extérieur comme étant une menace. C'est vrai que Gladys décrit très très bien ce qui se trame et ce processus très ambivalent avec à la fois cette illusion que la situation va s'améliorer, que la personne va travailler et puis ce maintien dans l'anonymat, à vraiment nier la personne dans sa capacité de sujet, à vraiment la déplacer comme ça d'un lieu à un autre comme si c'était un objet. Donc ce que décrit Gladys, c'est vraiment les témoignages que nous avons, que ce soit d'enfants, de femmes et d'hommes, et quelles que soient les formes d'exploitation.
Gladys explique qu'elle n'a pas été battue, mais injuriée, humiliée, rabaissée en permanence. Elle dit aussi qu'elle n'a pas vu de psy, qu'elle n'en a pas eu besoin pour reprendre sa vie en main, et qu'elle n'a pas de haine. Docteur Breillet, est-ce que ce cas étonnant de résilience est fréquent parmi les victimes d'esclavage moderne que vous suivez ?
Non, on en voit beaucoup, grossièrement on voit à peu près un quart des personnes qui se présentent, par exemple pour les mineurs non accompagnés, vont aller voir un psy. Mais moi je suis toujours étonné de leur capacité à résister par rapport à ce qu'ils ont vécu. C'est des histoires absolument dramatiques qu'ils ont vécues, avec un parcours absolument épouvantable, et par rapport à cela, ils ont quand même une résilience assez extraordinaire.
Naram Riach Wahabi, comment on aide les victimes d'esclavage moderne à se reconstruire ?
Alors, tout d'abord, en les accueillant en tant que sujet humain, c'est-à-dire une des premières phrases qu'on prononce, c'est « comment allez-vous ?» Et ces personnes, bien souvent, n'ont pas eu cette question qui leur a été posée durant des années, parce que s'adresser à elles avec leur prénom, s'adresser à elles en les considérant comme des semblables, c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu durant toutes les années d'exploitation. Donc déjà, en les accueillant en tant que personne, en tant que sujet, en tant que sujet ayant un récit, une histoire, parce que ça aussi, ça a été brisé pendant les années d'exploitation, et en leur disant que leurs paroles comptent, que ce qu'elles ont vécu, bien, c'est inacceptable, et déjà juste leur proposer cet espace de narration, cet espace pour se raconter, c'est déjà un premier pas vers la reconstruction.
Et vous, votre ONG utilise ce que vous appelez, je crois, des déviations artistiques pour réussir à savoir ce qu'ont vécu ces victimes.
Alors des médiations, elles sont peut-être dans la déviation, mais ce sont des médiations artistiques, tout à fait, parce que parfois l'accès à la parole est difficile, s'adresser à l'autre est difficile parce que les personnes ont honte, elles ont peur de ne pas être crues, elles culpabilisent également parce qu'elles pensent aussi qu'elles sont responsables de ce qui s'est passé pour elles. Donc effectivement, on peut utiliser la photographie, on peut utiliser le collage, on peut utiliser la peinture, parfois des promenades aussi dans l'espace urbain pour qu'elles puissent redécouvrir, se confronter aux autres en étant accompagnés. Et toutes ces médiations permettent bien que la parole puisse émerger, ou en tout cas qu'il y ait une forme d'expression qui soit supportable pour la personne.
Daniel Breillet, est-ce que c'est difficile d'aider des jeunes gens qui ont parfois été traités comme des animaux ? Est-ce qu'ils acceptent votre aide facilement ? Est-ce qu'ils vous font confiance ? Est-ce qu'ils s'ouvrent à vous ? De quelle manière ? Est-ce que c'est difficile ?
Alors, non, en général, c'est assez facile, mais Et ce qui me paraît important, c'est de ne pas se limiter à des entretiens. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une prise en charge qui soit plus globale que ça, d'une prise en charge médicale, et la plupart voient d'abord un médecin, ce qui permet déjà de faire un premier point et de pouvoir aborder les choses ensuite, progressivement. Et il y a aussi l'aspect social qui est tout à fait important. C'est-à-dire que là, on peut aussi les aider, d'en donner des adresses, dans les orienter un petit peu dans ce qui se passe pour eux. C'est tout à fait important. L'aspect purement psychique, complètement isolé, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait un ensemble pour qu'il puisse être dans un climat de confiance. Il se trouve effectivement à ce moment-là dans un, ce qu'on pourrait appeler un accueil bienveillant. Et quand il parle avec nous... À la différence de ce qui se passe souvent, ils savent que là, il n'y a pas d'enjeu. Hein. Il ne s'agit pas d'être reconnu comme mineur, il ne s'agit pas d'être reconnu comme réfugié, etc. Là, ils ont la parole libre. Et ce qui permet un premier contact, c'est de leur dire que nous savons qu'ils ont souffert beaucoup, que tout cela a des répercussions, qu'en général, ils en ont, j'ai envie de dire, plein la tête, et que de pouvoir en parler permet un petit peu de soulager cela. Et ça, ils l'entendent très vite.
Vous parliez tout à l'heure de prise en charge médicale. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont besoin d'être mis sous antidépresseurs, sous somnifères ?
Alors, pas forcément. Hein. Déjà, un bilan global l'état de santé physique est tout à fait important. C'est un aspect rassurant pour eux et c'est tout à fait important. On peut utiliser parfois des somnifères, pas vraiment, parce que souvent ils sont déjà dans des situations tellement précaires que de leur donner des somnifères à ce moment-là ne servira à rien et peut encore aggraver leur vulnérabilité lorsqu'ils dorment, s'ils sont à la rue par exemple.
Et vous parliez de cauchemars tout à l'heure, cauchemars récurrents.
Les cauchemars récurrents reviennent sans arrêt. Ça, c'est un des points importants et tous s'en plaignent. C'est pour eux d'ailleurs une source de fatigue importante. Alors effectivement, s'ils sont dans un lieu sécure la nuit, à ce moment-là, on peut leur donner un petit traitement et à ce moment-là, ça peut les soulager. Les antidépresseurs, c'est aussi un peu plus compliqué. Ça dépend là aussi de leur situation. S'ils sont vraiment en grande précarité, un traitement antidépresseur ne peut avoir une efficacité que si c'est un traitement un peu au long cours. Hein, on peut pas le donner une fois ou deux comme ça. C'est quand même un traitement sur plusieurs mois. Donc, c'est pas souvent indiqué. De temps en temps, ça peut rendre service, mais pas pour tous.
Naram Riachouabi, le docteur Brier parlait de la prise en charge psychologique. Vous êtes d'accord, il y a aussi l'aide matérielle et juridique aussi, j'imagine, qui est extrêmement importante pour ces victimes d'esclavage moderne.
Absolument. Absolument, c'est vrai que c'est aussi ce que nous faisons hein, dans les missions de l'ONG, c'est vraiment un accompagnement global parce que le soin, ce n'est pas seulement l'accompagnement psychique ou l'accès à la santé, c'est vraiment le soin global avec l'accès aux droits, quels qu'ils soient, les droits administratifs, les droits sociaux, le droit à la santé en fait partie. Et effectivement, on le constate hein, dans les accompagnements qu'on a mis en place depuis de nombreuses années, le fait qu'il y ait un accompagnement social, un accès aux droits, la mise en relation avec les avocats, l'accompagnement auprès des services de police pour les personnes qui veulent déposer plainte, tout ce qui concerne aussi l'accès à la formation, l'accès à l'apprentissage du français pour les personnes qui ne parlent pas français, eh bien tout cela va participer à la reconstruction de la personne et à son inscription dans un tissu social, dans un maillage qui va aussi, là encore, favoriser la reconstruction, la reconnaissance, l'estime de soi, et puis dans la relation à l'autre, hein, dans cette altérité, ben, quelque chose aussi de revalorisant, d'avoir une place, parce que c'est aussi ce dont ces personnes ont été privées. Et effectivement, ça ne se passe pas uniquement dans une relation duelle, dans un cabinet avec un psychologue ou un psychiatre ou un thérapeute quel qu'il soit. C'est vraiment sur tous les versants que de l'organisation de sa vie que cela se joue.
Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux avec cette appellation d'esclavage moderne, docteur Brier, est-ce qu'elle correspond à la réalité que vous êtes amené à connaître ?
Oui, c'est-à-dire que c'est ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui me paraît tout à fait important, c'est-à-dire que la personne n'est plus reconnue comme une personne, mais devient un objet, hein, un objet sexuel, devient un objet dans les mains d'autres personnes. Ils y perdent leur identité. C'est comme s'il y avait une espèce de brèche au niveau psychique, hein, et de perte d'identité. Hein.
Naram, est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec le docteur Brier, cette notion d'esclavage moderne, vous la partagez complètement ?
Alors oui, elle est importante, cette notion d'esclavage moderne, puisqu'elle rend vraiment compte qu'une personne, à un moment donné, va avoir la propriété sur une autre personne. Donc c'est la définition hein, de l'esclavage. Après, elle a aussi ses limites dans la perception qu'on peut en avoir. Dans le témoignage de Gladys, par exemple, à un moment donné, elle évoque qu'elle était donc dans cette maison isolée, elle parle à la voisine. Donc c'est vrai que d'expérience, hein, les questions qui peuvent être posées par la police ou les autres partenaires qui travailleraient avec des personnes victimes, écoutez, elle était libre finalement, elle aurait pu partir de cette maison, elle n'était pas vraiment esclave, hein. Les esclaves sont enchaînés, les esclaves sont séquestrés, et là il faut effectivement qu'on puisse expliquer, et la question de la relation de l'emprise est une question sur laquelle il faut sensibiliser, hein, pour qu'on comprenne bien que certes, Gladys n'était pas forcément enfermée à clé, toutefois elle avait eu la confiscation de ses documents, elle avait été dégradée, dénigrée, déshumanisée, ce qui fait qu'elle avait, elle le dit elle-même, une perte d'estime. Donc c'est vrai que c'est important d'appeler les choses par leur nom, c'est-à-dire qu'on est dans des situations d'esclavage, on est dans des situations de traite des êtres humains où on exploite des personnes, où on les réduit à l'état d'objet. Et en même temps, il y a tout un accompagnement aussi, parce que l'esclavage renvoie hein, à une période de l'histoire et dans l'imaginaire collectif à une privation de liberté physique avec la notion d'enfermement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la majorité des situations que nous rencontrons.
Et c'est souvent les voisins qui donnent l'alerte ?
Beaucoup, effectivement, beaucoup les voisins. Pour les personnes étrangères, la famille restée au pays aussi qui va s'inquiéter. L'école également, qui va voir une jeune fille pas forcément habillée avec les vêtements de saison qui accompagnerait les enfants matin et soir. L'hôpital aussi, qui va recevoir des personnes en consultation suite à des violences importantes ou à des tentatives de suicide, parce que c'est aussi une réalité hein, que nous rencontrons, des personnes qui tentent de fuir en mettant fin à leur vie et qui sont de fait conduites au service d'urgence. Donc c'est vrai que les voisins ont une vigilance, hein. C'est assez, assez positif de voir qu'il y a ce regard bienveillant qui peut être porté. Et puis dans les restaurants, ça peut être un client, sur les chantiers, ça peut être un collègue. Donc on a vraiment ce regard citoyen et cette bienveillance citoyenne qui est importante.
On va faire une pause musicale, quelques minutes avec Stromae, de retour après 4 ans d'absence. Son nouveau titre s'appelle Défilé et il sort aujourd'hui.
Elle défile, on voit nos vies défiler. Sur le fil, on voit les années filer. On essaye de filer droit. Et on peut pas rembobiner tous ces nœuds dans nos vies. Si on pouvait les dénouer, alors dites-moi comment ça marche. Dites-moi comment ça marche. Dites-moi comment ça marche. Dites-moi comment ça marche. De toute façon, on marche dans les rangs. En groupe ou pas, on marche seul. Qu'on le veuille ou pas, on a une valeur marchande. Du plus jeune âge au linceul. Marche ou crève, mais marche droit. Marche à l'envers ou ne marche pas. Et le business ça marche. La santé, la famille et le reste ça marche. Dites-moi comment ça marche. Dites-moi comment ça marche. Je le sais que c'est pas toujours comme on le veut. Pas toujours comme on le souhaite, mais je voudrais de vieux jours heureux. Dites-moi comment ça marche.
Je me demande, après toutes ces années, encore et encore, je le sais bien, là où je ne vais pas, mais pas encore, là où je voudrais aller. Je me doute bien que si je me laisse aller, ça me ferait pas tort, je ferais bien de franchir le pas. En tout cas, j'aurais tort de ne pas essayer. Si je voulais, je pourrais même m'arrêter, faire machine arrière. D'ailleurs, pourquoi les barrières devraient-elles toujours être dépassées? Pourquoi j'ai peur d'être dépassé? Par qui et par quoi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si j'ai peur, c'est que je suis pas le dernier. Comme s'il y avait qu'une arrivée, qu'un seul endroit, qu'une seule route où on devrait aller. Ça m'étonnerait, tout ce que je sais, c'est que je sais pas. J'y vais pas à pas, ouais, pas à pas, ouais, pas à pas.
Défilé, c'est le nouveau Stromae. Journée spéciale sur RFI à l'occasion du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France, une pratique qui persiste sous une autre forme. Depuis sa création en 1994, le Comité contre l'esclavage moderne a aidé plus de 650 personnes en France. Priorité Santé se penche aujourd'hui sur les traumatismes liés à l'esclavage moderne avec en duplex de Radio France Lyon, Naram Riech-Wahabi, psychologue et directrice de l'ONG OICEM, et à mes côtés en studio le docteur Daniel Breyer, psychiatre bénévole pour Médecins du Monde. On va prendre maintenant la direction de Conakry, retrouver le docteur Chaïkou Baldé. Bonjour.
Bonjour, Carlos.
C'est Chantal, mais c'est pas grave.
Chantal,
vous êtes psychologue, clinicien et psychothérapeute, vice-président de l'association guinéenne des psychologues cliniciens. Docteur Baldé, vous suivez de jeunes migrants qui ont été vendus comme esclaves en Libye. Dans quel état sont-ils quand vous les voyez pour la première fois, physiquement d'abord?
Merci beaucoup Chantal. Donc dès le premier contact, nous remarquons que ces jeunes sont complètement cassés. Et nous remarquons également que quelquefois, ils sont très déconfits. Mais nous pouvons dire même qu'ils sont zombisés et qu'ils manquent de repères. Certains sont très amaigris également lorsqu'ils vont arriver. Et il y en a qui présentent des cicatrices en lien avec des actes de torture, selon leur dire. Et donc, physiquement, nous voyons là des personnes vraiment dépaysées, et des personnes traumatisées et à cause des violences qu'elles ont vécues en Libye ou bien dans la situation géographique d'exil.
Et alors, comment vous décririez les traumatismes psychologiques?
D'un point de vue psychologique, ils sont décomposés. Il y a beaucoup de pleurs avant de prendre la parole. Et pour ceux qui veulent rester ici en Guinée, ils culpabilisent n'avoir pas réussi leur migration, surtout lorsque les parents ont participé au voyage. Et nous sommes là en face d'un cas de traumatisme et même d'une dépression réactionnelle. Et quelquefois aussi, pour ceux qui veulent repartir, et il y en a bien évidemment, la réaction psychologique est la même toujours, c'est-à-dire rappeler la part d'investissement des parents à la migration.
Parce que le retour au pays, donc, si je comprends bien, est davantage vécu comme un échec qu'une délivrance.
Il y a deux catégories, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Celle qui veut rester culpabilise pour l'investissement des parents. Ils vivent ça comme un échec, mais aussi comme une délivrance pour avoir échappé, eux, à la mort, car ils ont vu mourir sous leurs yeux des camarades d'immigration. Quant à la seconde catégorie, là aussi c'est un échec, car elle est tentée de reprendre la même aventure et de la réussir. Dans les deux cas, il y a quand même un échec.
Et est-ce qu'il y a des parents qui accueillent mal leur enfant?
Je n'en suis pas sûr, car nous en avons jusque-là pas rencontré. Mais écoutez, aucun parent qui aime ses enfants, qu'il ait échoué ou pas, ne peut rejeter son enfant pour n'avoir pas réussi cette aventure, surtout très risqué avec tous les contours que vous connaissez.
Et est-ce que ces jeunes vous font facilement confiance? Est-ce qu'ils acceptent facilement de parler de leur histoire, de ce qu'ils ont vécu?
Oui, bien évidemment, ils en parlent suffisamment, surtout lorsque nous leur mettons en confiance dès le premier contact pour leur faire savoir qu'effectivement, parler va les libérer et va les aider à soulager, à un peu décongestionner le stock qu'elle a déjà dans la tête. Et donc, ils se lassent facilement, ils discutent avec nous. Et tout ce qui leur manque, nous constatons que c'est le cadre adéquat pour leur mettre en valeur, parce que c'est ce qui les a beaucoup manqué aussi pendant le temps d'esclavage.
Mais est-ce que la parole, leur récit permet à d'autres ou pousse d'autres à ne pas tenter cette traversée?
On dirait pour certains oui, comme je l'ai dit, il y a deux catégories. Donc, pour la catégorie qui veut rester au pays, leur parole peut tenter d'autres à ne pas aller. Mais par contre, pour d'autres, c'est non. C'est-à-dire la seconde catégorie qui est toujours entraînée par l'aventure comme une pulsion.
Mais il n'y a pas de conscience du danger, du fait que partir, c'est aussi risquer la mort. L'attrait de l'Europe est plus fort que tout.
Comme je vous l'ai dit, la première catégorie, pour eux déjà, avoir échappé à la mort, c'est quelque chose de très important. Et là, eux se sentent déjà délivrés une fois arrivés au pays. Et ils souhaiteraient maintenant passer à autre chose, surtout quand ils sont écoutés. Et on les fait savoir aussi qu'effectivement, ils ont fait le bon choix de revenir au pays, ou bien qu'ils ont eu la chance d'être là. Et que nous comprenons ce qu'ils disent et nous reconnaissons aussi les violences qu'ils ont subies. Mais par contre, l'autre catégorie, elle est toujours animée par cette pulsion de partir, de voyager, de rembourser l'investissement des parents, et il se trouve quelque part même que le parent s'est endetté pour pouvoir investir dans ce voyage, et donc il y a toujours cette culpabilité qui est là et qui dit à cette personne que bon, effectivement il faut aller parce que ici ça ne va pas, et c'est de l'autre côté la vie, c'est de l'autre côté le paradis, et donc il faut aller le vivre, surtout quand il y a mon voisin aussi qui a son enfant qui est là-bas et qui gagne bien sa vie et qui fait tout, même sans savoir pourquoi est-ce que lui il est en train d'envoyer de l'argent comme il le fait, ou bien comment est-ce qu'il vit là-bas, et lui, il est toujours tenté de partir. Et donc, eux, ils sont prêts à braver tous les risques pour pouvoir y parvenir.
Et est-ce qu'il y a une sensibilisation en Guinée-Conakry sur les risques de la migration ? Est-ce que la population est sensibilisée à ces risques ?
Oui, effectivement. Actuellement, il y a l'EIM qui fait un grand travail à ce niveau. Ils sont en partenariat avec des associations locales et aussi le gouvernement guinéen. Et même des entreprises agricoles qui sont là sur place. Ils font beaucoup de choses. Ils passent à la télé, il y a les médias sociaux aussi qui en parlent. Et vraiment, c'est un travail très louable et la communication passe très bien.
Alors, il y a une autre forme d'esclavage moderne, c'est le mariage forcé. Est-ce que cette pratique est encore très répandue en Guinée ?
Je dirais oui. Cette pratique existe encore dans certains groupes ethniques où certains parents restent très autoritaires. Et chez ces familles, nous appelons souvent, lorsque nous sommes interpellés, à des médiations familiales. Et dans la majorité des cas, lorsque les parents comprennent la portée du bonheur de leur fille, ils finissent toujours par céder. Mais cela nécessite une bonne négociation. Et bon, vu qu'en Guinée, déjà, la parole elle est très importante, nous parvenons quand même à expliquer aux parents les conséquences gynécologiques, surtout si la fille est mineure, et aussi les conséquences psychiques qui peuvent déjà affecter la jeune fille. Et finalement, ils parviennent à comprendre.
Mais les jeunes filles confrontées au problème du mariage forcé osent venir vous voir ?
Oui, c'est surtout elles qui viennent nous voir parce que souvent il se trouve que la famille a un choix et elle-même elle a son choix, surtout pour celles qui ont été déjà à l'université. Et le problème se pose à partir du moment où il y a la divergence entre le choix, entre la fille et les parents. Et à ce niveau, nous demandons une thérapie familiale aux parents et ils ne refusent presque jamais. Là aussi, la jeune fille attend en venant chez nous que nous puissions parvenir à convaincre les parents de son choix. Et les parents aussi arrivent également avec la même demande, curieusement. Et bon, toujours, comme tout se met en parole dans les conflits familiaux, les parents acceptent presque toujours de répondre positivement à nos demandes, même si c'est pas facile. Et quelquefois aussi, ce sont nos collègues médecins qui orientent certaines filles ou certaines de ces personnes vers nous.
Donc ce sont les jeunes filles qui sont allées à l'école qui viennent vous voir ?
En grande majorité, oui.
Et est-ce que la prise en charge de ces victimes d'esclavage moderne est gratuite en Guinée ?
Oui, je dirais que dans la majorité des cas, nous, chez nous, nous faisons une prise en charge gratuite parce que c'est des personnes qui viennent là et qui n'ont pas de moyens et qui sont dans le besoin d'être accompagnées, d'être écoutées. On ne peut pas rejeter encore une patiente ou un patient parce qu'il n'a pas les moyens. Et nous savons que le niveau de vie du Guinéen n'est pas assez aisé. Et surtout que nous avons aussi des partenaires qui nous accompagnent dans nos actions telles que le Commissariat aux droits de l'homme et la Ligue internationale des droits de l'homme, la FIDH.
Docteur Baldé, il existe encore une autre forme d'esclavage moderne très répandue en Afrique, ce sont les enfants exploités au profit de leurs parents. Est-ce que c'est un sujet difficile à aborder chez vous ?
Oui, effectivement. Comme vous-même vous le dites, ce sujet il est très délicat. Et parce que pour les parents, ça y va dans des processus de maturation de l'enfant. Et pour d'autres, c'est de l'exploitation purement. Mais c'est pas du tout quand même aisé d'en discuter, parce que ici dans les foyers, vous voyez des jeunes filles qui font presque tous les travaux, qui sont même empêchées d'aller à l'école, et leur émancipation ou bien leur développement psychomoteur est même un peu entravé à travers ces travaux auxquels sont soumis ces enfants. Il y en a qui vendent aussi dans les rues, et voilà quoi, mais c'est très difficile.
Dernière question.
Là même, on a moins de cas à ce niveau.
Merci beaucoup, Chaïko Baldé. J'ai encore une question. Quel message avez-vous envie de faire passer à ceux qui nous écoutent ?
Le message, c'est de demander vraiment à ses parents d'accepter surtout le choix de nos jeunes filles lorsqu'il s'agit de mariage, parce que c'est important pour le développement psychomoteur et pour l'épanouissement même de la jeune fille. Et de l'autre côté aussi, c'est d'encourager toutes ces personnes, tous ces jeunes qui ont envie dans la demeure, et de leur faire savoir que la vie aussi, elle est possible ici en Guinée, elle est possible ici en Afrique, et que l'Eldorado, ce n'est pas forcément l'Europe. Et il y a beaucoup de jeunes modèles de réussite ici, même en Guinée ou dans le continent que nous connaissons, qui n'ont jamais mis pied en Europe, mais qui réussissent, qui n'ont pas tenté cette aventure suicidaire, mais qui réussissent encore ici. Donc, c'est à ces jeunes-là surtout que nous lançons un appel, et aux parents, bien évidemment, pour qu'ils puissent accepter de donner une bonne éducation à leurs enfants, de leur permettre de s'épanouir, d'aller à l'école, et de ne pas subir les conséquences tant médico-gynécologiques que psychologiques, à les soumettant à un mariage forcé ou bien encore à des travaux très durs à la maison.
Merci beaucoup, docteur Chaïko Baldé, pour ce retour d'expérience. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute en Guinée-Conakry et vice-président de l'Association guinéenne des psychologues cliniciens. Docteur Daniel Breyer, vous aviez envie de réagir à ce qu'on vient d'entendre.
Oui, j'avais envie de réagir parce que on reçoit un certain nombre de jeunes femmes qui ont quitté leur pays à la suite d'un mariage forcé. Et ce qui se passe pour ces femmes, c'est que quand elles refusent ce mariage, elles sont en général reniées par leur propre famille. J'ai vu des situations comme ça, je vais en décrire une seule pour situer un petit peu les choses, d'une jeune femme qui a été mariée. Le mari a donc payé une dot, parce que le problème de l'argent compte aussi là-dessus. Hein. Il a donc payé une dot pour avoir cette femme. Et un jour, elle se refuse à lui, elle est attaquée au couteau. Hein, donc c'était quand même quelque chose de particulièrement important. Donc elle s'enfuit, elle retourne chez ses parents. Qu'est-ce qui se passe? La famille du mari vient voir sa famille à elle, avec un imam, pour demander pardon. Donc sa famille à elle accorde le pardon au mari et demande à la femme de retourner chez son mari. Et pour elle, c'était absolument inacceptable. Hein. Et c'est ce genre de situation que nous décrivent la plupart des femmes dans ce cas de mariage forcé. Hein. Et le problème, parfois, c'est ce problème d'argent. Hein. Ce sont des gens qui payent, des maris qui payent pour avoir leur femme. Et ça, c'est quand même insupportable. Là, la personne est réduite à une monnaie d'échange. Hein. Ce n'est plus une personne en tant que telle, ce n'est plus un sujet. Hein. Et je pense que c'est quand même important de connaître ce type de situation.
Naram Riachouabi, qu'est-ce que vous retenez, vous, du témoignage du docteur Baldé en Guinée-Conakry ?
Effectivement, c'est déjà très positif de voir qu'il y a des médiations possibles sur place, parce que c'est vrai que pour nous, c'est important d'être rassuré, de travailler en coopération avec les ONG locales, de manière à ce que certaines personnes puissent éviter d'avoir ce parcours migratoire, même si tout n'arrive pas par la Libye. Hein. Il y en a qui arrivent par voie tout à fait légale. Concernant le mariage forcé, effectivement, nous avons un certain nombre de femmes de Guinée, de Côte d'Ivoire également, enfin de différents pays, hein, qui ont fui des mariages forcés, des situations d'excision également, qui ont abandonné leurs enfants suite à des violences importantes dans le cadre du mariage forcé. Le mariage forcé concerne aussi des jeunes filles françaises, donc bien entendu, hein, qui sont bien souvent originaires de Guinée ou d'Algérie ou d'autres pays. Et là, on a souvent une volonté des parents de s'inscrire dans une tradition conditions très rigides, avec quelque chose d'assez archaïque parfois, et on est face à des jeunes filles plutôt émancipées, qui sont à l'université, qui font des études et qui veulent un petit peu prendre de la distance par rapport à cette culture d'origine. Et on est vraiment face à un conflit, on va dire, hein, de génération, un conflit de tradition. Et on essaye de les amener à travailler autour de la médiation, mais c'est compliqué, de la médiation familiale dans ces situations. Donc là, juste sur ce début d'année, on a déjà orienté trois jeunes filles pour fuir, en fait, hein, leur famille du fait du mariage, du mariage forcé. À la demande des jeunes filles, elles ont souhaité s'éloigner géographiquement pour fuir les mariages forcés. Donc c'est vrai que c'est un sujet compliqué. Et là, ce sont uniquement des jeunes filles qui sont en mesure de venir en parler, qui ne sont pas prises dans la honte et la culpabilité et le conflit de loyauté vis-à-vis de leur famille. Parce qu'effectivement, renoncer au mariage forcé, ben, c'est quand même renoncer à sa famille, comme le disait très bien le docteur Guinéen.
Daniel Breyer, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, je voulais reparler de cela parce que c'est des situations que je trouve que nous rencontrons de plus en plus souvent. Et effectivement, la plupart des femmes que nous rencontrons sont des femmes qui ont été peu scolarisées, qui ont eu beaucoup de difficultés. Et elles se sont senties complètement rejetées. Et à ce moment-là, d'un seul coup, il n'y avait plus qu'une solution, c'était de fuir. Fuir, et donc du coup, pas forcément dans l'idée d'aller en Europe au départ, hein, c'est de fuir déjà leur pays parce qu'elles ont peur d'être rattrapées par leur famille ou la famille de leur mari. Et c'est à partir de là que le voyage se fait au fur et à mesure. Là, elles sont ensuite victimes des passeurs, hein, effectivement. Et on sait après tout le trajet de ce qui se passe en Libye. Et donc, quand elles arrivent en France, elles sont particulièrement marquées et sont vraiment dans des situations absolument terribles.
Hein. Alors, je voudrais qu'on parle de la justice pour terminer cette émission. La traite d'êtres humains est punie en France de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Est-ce que pour vous, la justice est encore trop timide, Naram Riech-Wahabi?
Alors, la France dispose quand même d'un arsenal législatif conséquent qui a été complété largement ces dernières années. Donc c'est plus dans l'identification, le repérage des situations de traite des êtres humains et dans l'application des textes de loi existants. Effectivement, il y a des efforts, hein, et certains tribunaux y travaillent, hein, notamment le parquet d'Aix-Marseille, hein, qui met en place des conventions et un travail avec les différents acteurs, c'est-à-dire police, associations, acteurs de terrain, de manière à ce qu'il y ait un travail en coordination. Parce que pour qu'il y ait une application de la justice de manière effective, il faut aussi qu'en amont, il y ait des éléments de preuve matérielle pour qualifier l'infraction. Hein. On est sur des éléments très pragmatiques et pas nécessairement la parole d'une personne, même si elle est en souffrance, même si ce qu'elle décrit est insupportable. Il faut des éléments de preuve matérielle pour qu'il y ait des condamnations. Et effectivement, pour le moment, il y a assez peu de condamnations en France, ou alors ce sont des condamnations qui sont requalifiées en proxénétisme dans les situations d'exploitation sexuelle, ou en travail dissimulé, ou en conditions d'hébergement indignes, conditions de travail indignes. Donc c'est vrai que l'infraction de traite des êtres humains, c'est une infraction très complexe, celle d'esclavage également, et il y a vraiment du travail à mener pour que ce soit des qualifications qui soient clairement appliquées, et qui sait, peut-être que les appliquer de manière plus régulière et plus importante aura un effet dissuasif pour les exploiteurs qui, pour certains, pensent pouvoir agir en toute impunité.
Merci beaucoup à nos deux invités, Naram Riech-Wahabi, psychologue et directrice de l'ONG OISEM. Et merci à nos confrères de Radio France Lyon qui ont permis ce duplex avec vous. Merci également à vous, docteur Daniel Breyer, psychiatre bénévole pour Médecins du Monde.
Priorité santé sur RFI.
On va terminer cette émission avec une prouesse technique qui suscite beaucoup d'espoir. Une équipe suisse a mis au point un implant sous-cutané détecteur de cancer. Professeur Martin Fussnegger, bonjour.
Bonjour, Madame Loro.
Vous êtes professeur en biotechnologie et ingénierie biologique à l'École polytechnique fédérale de Zurich, à Bâle. Expliquez-nous à quoi ressemble cet implant et comment il fonctionne.
Donc notre implant consiste de minuscules capsules de gélatine d'algues pour protéger des cellules à l'intérieur du corps humain. Et ces capsules ont d'environ un quart de millimètre en diamètre. Et ces capsules contiennent des cellules humaines génétiquement modifiées pour mesurer le calcium dans le sang. Et si le calcium dans le sang est élevé pendant plusieurs jours, ces cellules produisent de la mélanine. C'est un pigment noir. C'est la même substance responsable pour le bronzage. Donc cette mélanine accumule dans l'implant et produit le grain de beauté artificiel qui finalement indique le développement d'un cancer qui est relié à la croissance imminente de calcium dans le sang.
Parce que voilà, quand il y a un risque de cancer, en fait, le taux de calcium augmente dans le sang, c'est bien ça?
Oui, c'est tout à fait ça. On connaît aujourd'hui à peu près 300 différents types de cancers. 40% de ces cancers augmentent la concentration de calcium dans le sang, dont le cancer de côlon, le cancer de la prostate et le cancer du sein. Et c'est exactement cela qui détecte l'implant.
Et alors donc, quand ce grain de beauté artificiel va apparaître, la personne est avertie, entre guillemets, qu'elle risque de développer un cancer. Parce qu'en fait, ce grain de beauté apparaît bien avant les premiers symptômes physiques du cancer.
Voilà, c'est tout à fait ça. Il est très important de savoir que l'implant détecte déjà une croissance très très faible de calcium quand la tumeur commence juste à se développer. Et à ce stade-là, on n'a pas encore de symptômes et la chance de guérison est de plus de 81% pour le cancer du côlon et même 98% pour le cancer de sein et 99% pour le cancer de la prostate. Donc à ce stade-là, il n'y a pas du tout de panique si le grain de beauté apparaît, parce que la chance d'être guéri est presque encore 100%.
Et quand est-ce que cet implant sera disponible sur le marché?
Ben là, on vient juste de le finir à un stade de la recherche scientifique, une université. Il faut d'abord confirmer ces résultats dans des animaux plus grands. Jusque maintenant, on a validé la technologie dans la souris. Il faut peut-être faire ça dans le cochon. Le cochon qui a une peau qui est très similaire de la peau humaine. Et après, il faut se mettre en équipe avec le corps médical, les médecins qui préparent les phases cliniques pour le tester. On espère que d'ici 5 ans, on va être prêt à entrer dans ces phases cliniques. Et encore une fois, 5 ans, donc d'ici 10 ans, on espère de les avoir
sur le marché.
Finis et l'implant va être sur le marché.
Merci beaucoup, professeur Martin Fussnegger, d'avoir été en ligne avec nous de Bâle. Merci à Cetou Samaké et Ophélie Lassen qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Didier Bleu qui l'a réalisée. Lundi, vous retrouverez à ce micro Caroline Paré autour d'une question. La santé est-elle une marchandise comme les autres ?
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.